Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous terminons cette semaine avec une émission exceptionnelle. Car oui, vous n'êtes pas à mes côtés aujourd'hui, Franck Ferrand, dans les studios d'Europe 1, rue François 1er, à Paris. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous ne sommes guère éloignés des studios de la rue François 1er aujourd'hui, puisque c'est tout près, avenue Marceau, que nous avons installé nos micros pour vous faire découvrir, un peu moins d'un mois avant sa fermeture, le 14 février prochain, la dernière exposition de la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, une exposition intitulée Jacques Doucet, Yves Saint-Laurent, vivre pour l'art. On y rencontre l'esprit mêlé de deux esthètes, de deux génies, deux inventeurs d'univers, deux artistes en somme. L'un et l'autre étaient à la fois couturier et collectionneur. Jacques Doucet, né en 1853 et mort en 1929, et Yves Saint-Laurent, né en 1936 et disparu, vous le savez, en 2008. Un bon demi-siècle sépare donc l'apogée des deux créateurs, environ 60 ans entre le studio Saint-James, aménagé pour lui-même par Jacques Doucet à Neuilly, et le grand salon du 55 rue de Babylone, l'appartement d'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Pourtant, au-delà de quelques œuvres qui se sont trouvées chez l'un puis chez l'autre, tout un réseau d'échos, de résonances, de correspondances existe entre ces deux décors, entre ces deux collections, entre ces deux mondes qui, dans l'exposition, n'en font plus qu'un. L'idée de l'exposition de la Fondation Berger-Saint-Laurent, en imbriquant ces deux inspirations, c'est de nous transporter tout à la fois rue Saint-James et rue de Babylone, chez Yves Saint-Laurent en même temps que chez Jacques Doucet, avec, au-delà de l'évocation de ces espaces parfaits voués à l'art, l'épanouissement d'un certain esprit commun aux deux. Dans son studio, entre guillemets, Jacques Doucet mêlait l'inspiration du douanier Rousseau à celle de Brancusi. Il assumait les demoiselles d'Avignon de Picasso autant que la blouse rose de Modigliani. Entre art premier et art déco, dans une harmonie ultra chic et en même temps presque dérangeante, il préfigurait le sublime mélange des genres que, dans la deuxième moitié du siècle, rue de Babylone, Yves Saint-Laurent et Pierre Berger porteront à un point de perfection.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
C'est Pierre Berger, chère Anissa, qui nous reçoit lui-même dans ses locaux historiques de l'avenue Marceau. Merci beaucoup de nous recevoir dans un lieu chargé d'histoire, chargé de création et d'art.
Bien, merci beaucoup de venir avec moi parler de création et d'art.
Est-ce que Jacques Doucet a joué un rôle déterminant dans la conception qu'Yves Saint-Laurent se faisait de la vie, de l'art, des collections ?
Non, il n'a pas joué un rôle déterminant, mais pourtant, au moment de sa vente, fameuse vente, de ses héritiers ont fait en 1972, Yves Saint-Laurent et moi, nous collectionnions depuis 2 ou 3 ans déjà, et même un peu plus, puisque le premier vrai objet art déco que nous avons acheté, qui sont des grands vases de Dunan, nous les avons achetés en 1966.
Ils sont là dans l'exposition d'ailleurs, très spectaculaires.
Ils sont là dans l'exposition. Et puis entre 1966 et 72, nous avons continué à acheter. Mais, en effet, la vente de 72 a été comme une espèce de révélateur, comme une espèce de coup de tonnerre dans le ciel des collectionneurs, puisque d'un peu confidentiel qu'était l'art déco, après avoir connu une grande époque très brillante et son apogée avant la guerre, c'était un peu retombé dans le sommeil. Les gens continuaient à collectionner surtout des meubles 18e, voire 19e, mais l'art déco n'était pas encore, comme on dit, à la mode. Alors, nous sommes Yves Saint-Laurent, moi et 2 ou 3 autres, dont Hélène Rochas, un peu responsables de cette remise à la mode. Et la vente de 72 a absolument mis un point d'orgue, a tiré l'attention du monde entier de l'art. Et tout à coup, après cette vente, les choses n'ont plus tout à fait étaient les mêmes.
Ce qu'il faut dire, et j'y viendrai tout à l'heure, c'est que cette vente de 1972 intervenait exactement 6 décennies après la vente historique de 1912, au cours de laquelle Jacques Doucet s'était lui-même séparé de l'essentiel de ses collections, qui justement étaient jusqu'alors constituées d'objets, de meubles, de grands objets du XVIIIe siècle.
Yves Saint-Laurent n'a pas fait ça, mais c'est une des grandes qualités qu'il faut reconnaître à Doucet. Et je ne pouvais pas, puisque cette collection que nous avons ici, c'est une idée que j'ai eue, je l'avais depuis plusieurs années. Je l'ai eue depuis plusieurs années parce que bon, c'est un peu l'œuvre de Christophe Colomb, parce que pour moi, il a été très vite évident qu'on avait affaire à deux couturiers, même si l'un était dans la couture beaucoup plus important que l'autre, mais enfin, deux couturiers
et deux collectionneurs.
Oui. Alors, l'intérêt de Doucet, vous venez de le souligner, l'intérêt de Doucet, c'est qu'en effet, en 1912, il s'était séparé d'une grande partie de sa collection et qu'il a décidé, et ça, moi, je ne peux être qu'admiratif et qu'émerveillé, de s'intéresser à l'art de son temps. Et vous savez, il s'était entouré de gens exceptionnels, comme Aragon, il s'était entouré de gens...
Breton,
comme
etc.
André Breton,
oui, on y viendra.
Et qui plus tard l'a accompagné. Mais il a absolument joué sur beaucoup de tableaux, Doucet. Une anecdote, par exemple, un très grand écrivain que moi j'aime beaucoup, qui est André Suarez, il est venu le trouver un jour pour lui dire qu'il avait besoin d'aide, parce qu'il n'était pas riche, qu'il avait besoin d'argent... Et Doucet, qui accueillait très généreusement les gens, mais au lieu de lui signer un chèque et de lui faire l'argent, lui a dit « Écoutez, je vais vous proposer quelque chose, je vous donnerai de l'argent tous les mois, et vous, toutes les semaines, vous m'écrirez une lettre. Mais pas une lettre pour me dire bonjour, vous m'écrirez vos lectures, vous m'écrirez ce que vous voyez, vous m'écrirez ce qui se passe autour de vous, vous me parlerez de la vie, des créations, de la vie intellectuelle, de ce qui se passe en ce moment. » Et ce fut fait. Et les lettres de Suarez, d'ailleurs, ont été publiées depuis. Elles s'appellent « Cher magicien », parce que Suarez a toujours commencé ses lettres en appelant Doucet « Cher magicien ». Donc, je dis ça pour montrer l'originalité de Doucet. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Doucet.
Non seulement il est original, et non seulement ça dénote chez lui une forme de singularité, c'est incontestable, mais il encourage l'art.
Mais évidemment.
Il facilite les choses, en fait, hein, c'est ça.
Bien sûr. Et puis il facilite les correspondances.
Bien sûr.
Ce que, moi, me touche beaucoup. Par exemple, il achète La Charmeuse de Serpent du douanier Rousseau, et qu'est-ce qu'il fait ? Dessous, il commande à Marcel Cohard un sofa. Et ce sofa a l'air de sortir
du tableau,
à moins que ce soit le tableau qui a l'air de sortir du sofa.
Qui serait né du sofa.
Serait né du sofa. Donc ces correspondances sont absolument extraordinaires.
On aurait pu, Yann Kerlot, appeler cette exposition correspondance du reste. Ce sont des échos, des effets de miroir et de reflet permanents.
Alors, elle aurait pu être appelée correspondance. Il y a une passion chez les deux collectionneurs qu'ont été M. Saint-Laurent et Jacques Doucet. C'est absolument stupéfiant quand on le voit dans l'exposition qui a lieu ici à la Fondation. Et ce que je trouve très intéressant, au fond, dans ces deux collections, c'est une sorte de captation. Parce que qu'est-ce que c'est collectionner ? C'est capter non seulement l'ère de son temps, mais également l'ère ailleurs des siècles passés. Et d'une manière assez amusante, Jacques Doucet disait, au fond, on commence toujours par vivre dans le mobilier de ses grands-parents, ensuite on vit dans celui de ses parents, et ensuite dans celui de ses fils et de ses petits-fils. Alors, le propos, en fait, veut dire simplement qu'on commence par s'intéresser peut-être aux choses classiques, c'est-à-dire pour Jacques Doucet, le XVIIIe siècle, et puis bien avant, puisqu'il a eu des choses plus anciennes, et ensuite on va vers l'ère de son temps, puisqu'il disait également, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le passé, ce n'est pas la poussière du temps, mais c'est ce qui se passe maintenant.
Je vous propose de faire maintenant mieux connaissance avec Jacques Doucet, et puis nous reviendrons à la correspondance entre les deux personnages, les deux créateurs, et bien sûr leurs deux univers.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi jusqu'à 15h, Franck Ferrand, vous nous proposez sur Europe 1 une émission depuis la Fondation Pierre Berger. Vous allez notamment nous parler d'art et vous nous faites surtout découvrir cet après-midi le grand couturier et collectionneur Jacques Doucet.
Quand on a tout aimé puis tout délaissé plusieurs fois, avais-je écrit jadis à propos d'un esthète bien connu, on en vient à se fixer selon sa nature à la simplicité parfaite ou à la pleine exubérance. et l'on fait sauter les barrières. Alors on se rend compte que les modes du moment, les siennes propres, les seules qui vaillent, sont un biais nécessaire pour apprécier dans son ampleur le génie des diverses époques. Tous les grands collectionneurs sont passés par ces phases successives de goût et de dégoût, de passions plus ou moins exclusives, qui permettent d'élargir sans cesse le champ de la recherche et de la captation. Jacques Doucet, tout le premier. C'est qu'avant de devenir ce magicien des avant-gardes dont parlait Pierre Berger à l'instant, ce magicien que nous admirons à la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, le couturier attitré de Sarah Bernard et de Réjeanne, de Liane de Pougy et de la belle Otero, l'homme qui a fondé rue de la Paix, l'une des premières maisons de haute couture en France, et devait être le maître du grand Paul Poiret, par exemple. Jacques Doucet, donc, a collectionné ce qu'il appelait lui-même, non sans tendresse, des vieilleries. Le terme est outrageusement péjoratif, puisqu'on sait que dans son premier grand appartement de la rue de la Ville-l'Évêque, le jeune Doucet avait réuni ce qu'il pouvait y avoir de plus poussé, de plus raffiné dans le grand siècle, ou pour reprendre l'expression de Jacques Garcia, dans ces grands siècles que sont le 17e et le 18e réunis. Les plus beaux bronzes de Coisevaux, les plus subtils pastels de la Tour, les plus fins marbres de Clodion, mais aussi des meubles aux marqueteries étourdissantes, estampillés Jacob ou Röntgen, des pierres dures à perdre la tête qui constituaient le fond de cette collection inouïe, l'une des toutes premières du monde en son temps. On est à l'époque où l'histoire de l'art, et dans l'histoire de l'art il faut entendre aussi l'histoire de ce qu'on appellera assez vite les arts décoratifs, cette histoire est en train de quitter le monde imprécis de l'érudition dilettante pour devenir une discipline à part entière, quasiment une science. Et ça, ça passionne au plus haut point Doucet, qui dès les premières années du XXe siècle va lancer des projets d'inventaire, de programmes, de recherche. C'est en œuvrant dans ce sens et parce qu'il a constaté la grande pénurie d'éléments documentaires dignes de ce nom qu'il va commencer, il faut dire qu'il est bien conseillé et qu'il est bien entouré, mais il va rassembler chez lui, rue Spontini maintenant, des livres rares. Il va constituer le fond d'une des premières bibliothèques de recherche de son temps. Plus tard, il possédera aussi, ça c'est une autre affaire, on en parlera dans un instant, une bibliothèque littéraire impressionnante. On y reviendra. J'observais ce matin plusieurs portraits photographiques de Jacques Doucet, dont celui de Man Ray évidemment. Je regardais ce crâne chauve, cette barbe blanche, cette allure de savant ou d'archéologue. Je me disais qu'il avait, ce bonhomme-là, la physionomie d'un défricheur ou d'un aventurier. Pourquoi pas d'un chasseur d'ailleurs ? Le besoin de collectionner est très proche de l'instinct sportif, a écrit Kenneth Clark, et tout comme personne n'aurait l'idée d'aller chasser une vache dans un pré, ainsi le véritable collectionneur goûte la lenteur, la difficulté de l'affût et les doutes qui l'assaillent jusqu'à l'alali. Mais il y a aussi beaucoup de sensibilité dans la manière dont Jacques Doucet réunit des œuvres sans cesse plus essentielles. Les meilleurs collectionneurs, dit encore Kenneth Clark, considèrent leurs biens avec l'émotion d'un artiste et revivent jusqu'à un certain point les expériences sensuelles et imaginatives que recrée toute œuvre. De fait, bien des grands collectionneurs ont été des artistes qui, avant l'avènement de la photographie, collectionnaient une documentation susceptible de les aider dans l'exercice de leur profession. Il faut vous dire que Jacques Doucet n'est pas issu d'un milieu modeste comme le sera Paul Poiret que je citais tout à l'heure ou comme Coco Chanel, bien entendu. Alors que pour eux, la couture, si vous voulez, est un moyen d'ascension sociale, Jacques Doucet, lui, était plutôt un grand bourgeois, du moins le fils d'un grand bourgeois, qui s'était commis dans la couture, dans la haute couture, puisque c'est lui qui va donner naissance à cette haute couture. Lui qui n'aimait rien tant que l'élégance, qui vivait aux marges de ce monde proustien qui était le grand monde de la belle époque, il aura vécu longtemps le sentiment d'être un peu tenu à distance par le faubourg Saint-Germain. Posséder de très beaux bustes de Houdon ne faisait pas de vous à cette époque un membre du Jockey Club. Doucet était ou avait été un couturier à l'époque où cela n'était pas encore devenu, comment dirais-je, une grande référence, n'était pas un sésame. Rien à voir avec ce que vivra, par exemple, Yves Saint-Laurent, beaucoup plus tard, nous y reviendrons. Jacques Doucet se veut peut-être d'autant plus libre de se passionner pour la création, sous toutes ses formes, pour la vie des formes, de toutes les formes. Il devient en quelque sorte un puriste de l'art, un chercheur de nouveautés qui ne va pas pouvoir éternellement se cantonner, comme nous le disait Yann Kerlo, au chef-d'œuvre du passé, si accompli soit-il. Alors que le siècle nouveau est en train de connaître les frissons de l'art nouveau, justement, de la peinture cubiste, des ballets russes, etc., lui éprouve de plus en plus le besoin de changer d'horizon. Nous allons voir le rôle que jouent un certain nombre d'artistes et de conseillers dans cette évolution. Voici donc que, finalement, en 1912, à 59 ans, Jacques Doucet déménage. Il s'installe dans un appartement vaste, clair, moderne de l'avenue du Bois, notre actuelle avenue Foch. Et il en profite pour faire peau neuve, pour se débarrasser de l'essentiel de sa première collection au cours de cette fameuse vente restée dans la mémoire de tous les amateurs d'art et de tous les marchands, bien entendu. La vente Doucet, où l'on va voir des centaines, je dis bien des centaines de chefs-d'œuvre enfiévrer ceux qui vont devenir les grands collectionneurs du XXe siècle, les David Weil, les Veil Picard, les Pierpont Morgan, les Wildenstein, etc. Et j'en passe. Cette vente est en quelque sorte une page que l'on tourne, une page qui s'ouvre sur quelque chose de neuf, d'éternellement neuf. Nous y venons dans un instant.
Et cet après-midi, c'est un numéro exceptionnel de Cœur de l'Histoire, puisque nous sommes au cœur de la Fondation Yves Saint-Laurent. Franck Ferrand, vous recevez pour nous parler d'art cet après-midi Yann Kerlot, romancier et essayiste qui a travaillé plus de 15 ans dans le domaine du luxe et de la cosmétique, notamment pour les groupes Yves Saint-Laurent et Gucci. Et puis vous recevez bien sûr Pierre Berger, président de la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, puisqu'il y a jusqu'au 14 février cette exposition Jacques Doucet, Yves Saint-Laurent, Vivre pour l'art, qui est à voir en ce moment à la Fondation.
C'est tout à fait inouï ce qui s'est passé en 1912. Cette volonté dont vous nous parliez, Pierre Berger, il y a un instant, cette volonté de la part de Jacques Doucet d'entrer en résonance avec son temps et d'aller chercher ce qui se faisait de plus fort et de plus neuf dans son époque.
Oui, mais ça, c'est normal. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez essayé d'assimiler le collectionneur et le chasseur.
Oui.
Vous me permettez de pas tout à fait partager ce point de vue.
C'est Kenneth Clark qui donnait ce point de vue, mais je le reprenais à mon compte, c'est vrai.
J'ai bien compris que c'était Kenneth Clark. Je ne pense pas que le collectionneur soit un chasseur, parce que le chasseur a un but, c'est de capturer, et un but, c'est de tuer d'ailleurs, naturellement. Le chasseur prétend aimer les gibiers, je n'en doute pas du tout. Je ne sais pas s'ils les aiment plus dans leur assiette qu'au bout du fusil ou que libre dans la nature. Mais le collectionneur, lui, aime l'art, aime les artistes. Et je pense que un vrai collectionneur est quelqu'un qui sait depuis longtemps que l'art n'appartient à personne. Le collectionneur sait qu'il a beaucoup de chance de pouvoir héberger cet art, que l'art et les objets d'art ou les tableaux, enfin tout ce qui ressemble à l'art, c'est comme un oiseau migrateur. On a beaucoup de chance qu'il vienne chez vous, chez soi, se reposer pour un hiver un peu clément et d'y rester un peu. Et un jour, ils repartiront. Et c'est ça la beauté de l'œuvre d'art. Et c'est ça le destin de l'œuvre d'art. Et le collectionneur qui ne comprend pas que l'œuvre d'art ne lui appartient pas, il n'en est pas le propriétaire. Oui, bien sûr, il a payé pour l'avoir, mais s'il ne comprend pas que l'art ne s'achète pas. Si on achète l'art pour l'argent, et uniquement pour lui, l'art se venge.
Vous dites ça à l'adresse des spéculateurs éventuels, des gens qui...
Je dis ça à l'adresse, je ne cite personne, mais vous pouvez mettre sous ce vocable de spéculateur qui vous voulez, je vous laisse le choix.
Il n'y a que l'embarras du choix.
Je ne vous le fais pas dire.
Si vous me le permettez, je voudrais dire quelque chose sur la fameuse vente de 1912, parce qu'elle a été, au fond, l'une des premières à utiliser ce que l'on pourrait appeler les moyens de marketing modernes et de communication. C'est-à-dire qu'avant même la vente de juin 1912, il va y avoir une campagne extraordinaire dans Paris. On va d'abord se préoccuper du lieu où elle doit se passer.
On fait monter
la pression. On va ensuite composer les catalogues. Les catalogues sont considérables, puisqu'ils feront 300 pages, une centaine de pages pour les pastels et les dessins, une centaine de pages pour les sculptures, une centaine de pages pour les meubles. Alors, c'est le grand bouche à oreille de tout Paris, mais également, une fois que ces catalogues sont prêts, le commissaire-priseur, qui est maître Laire Dubreuil, qui est très célèbre à Paris à ce moment-là, va prendre la décision d'envoyer ces catalogues, non seulement en France, mais aussi, bien entendu, chez Joseph Devine, qui est le grand marchand londonien, londoniens, également
outre-Atlantique,
chez les Seligman, les grands collectionneurs, les Potter Palmer, les Vanderbilt, etc. Donc c'est une vente qui était préparée avec un très grand soin. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il va s'entourer, bien évidemment, Jacques Doucet, d'un certain nombre de gens pour préparer cette vente, mais il a déjà en tête les acquisitions qu'il fera ultérieurement et qui vont, et là je voudrais revenir sur ce qu'a dit Pierre Berger tout à l'heure, la différence pour lui entre la chasse aux objets et ce qu'est un collectionneur, et là je partage tout à fait son point de vue. La collection, c'est une quête, et cette quête n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite dans l'espace, c'est-à-dire qu'elle peut se faire sous tous les horizons, et Jacques Doucet et Pierre Berger, Yves Saint-Laurent en donneront la preuve, puisqu'ils vont, on pourrait dire, acheter des choses de différentes latitudes, mais également elle n'a pas d'obstacle dans le temps, c'est-à-dire qu'elle peut remonter à l'Antiquité grecque pour s'intéresser à des œuvres contemporaines.
Oui, bien sûr. Pour ce qui est de l'art en tant que tel, il faudra qu'on parle bien entendu du mobilier, des objets, etc. Mais pour ce qui est des œuvres d'art et plus particulièrement de la peinture, vers quel créateur Jacques Doucet se dirige-t-il à cette époque ?
Alors, au moment où il se sépare de ses collections, il va un peu hésiter, il va regarder d'abord ce qu'achètent les gens qui sont censés avoir du goût et être des précurseurs, et il va avoir des achats assez sages. Il va acheter Sisley, il va acheter Manet, il ne va pas acheter tout de suite les grandes œuvres qui font parler d'elle, et en particulier les œuvres de Picasso qu'on lui proposera. Il sera un
donc
petit
une transition
peu...
d'une
il y a une transition
manière.
Et ça se fait avec douceur et avec une certaine hardiesse quand même, parce qu'il faut le reconnaître, il fallait oser à ce moment-là acheter des œuvres cubistes. Il le fera bien plus tard et sur la recommandation fort appuyée d'André Breton.
Il y a un univers qui se crée, un nouvel univers dans cet appartement de l'avenue du Bois chez Jacques Doucet. Lorsque vous avez, avec Yves Saint-Laurent, créé votre propre collection, Pierre Berger, vous avez vous aussi façonné cet univers.
Oui.
C'est fait de correspondance, c'est fait de...
Oui, une remarque qu'on peut faire, qui est quand même différente et qui sépare totalement Doucet de Saint-Laurent, c'est que Doucet a bazardé tout le passé pour s'intéresser à la création de son temps. Ce n'est pas du tout ce que nous avons
fait. Ah
non,
ce n'est pas la même démarche.
La création de notre temps, même si nous n'avons pas été insensibles, même si elle nous a plu parfois, vous avez dit qu'il avait fait des achats sages en achetant un Manet. Je ne suis pas sûr qu'un Manet soit un achat sage, étant donné qu'il reste un des plus grands peintres du monde, et il reste pour longtemps un des plus grands peintres du monde. Mais Yves Saint-Laurent et moi, oui, nous avons fait déjà ça sage. Moi, j'appelle faire un achat sage d'acheter Andy Warhol. J'appelle faire un achat sage de commander des choses au Lalanne. Nous ne sommes pas entrés, nous, et je l'assume, et je le dis...
Dans l'avant-garde.
Dans l'avant-garde. Aujourd'hui, ça serait Damien Hirst et, ou Jeff Koons. Je ne sais plus qui étaient les Jeff Koons et les Damien Hirst de l'époque.
C'est d'ailleurs intéressant que vous ne le sachiez plus, mais enfin,
peut-être
bon,
ils sont
fermons cette parenthèse.
Peut-être ont-ils complètement disparu. Mais en tout cas, je ne sais pas si nous avons tort ou si nous avons eu raison, mais il faut dire la vérité. Une grande différence entre Doucet et nous. Mais ce qui nous rassemble, c'est en effet notre passion de la collection. Nous pensons que les œuvres d'art, quelles qu'elles soient, se tutoient, qu'il y a un moment donné où elles se reconnaissent, où elles se rejettent. Car il y a des œuvres d'art, et vous le savez très bien, qui ne peuvent pas entrer comme ça et que les autres rejettent. Et qui ne trouvent jamais leur place. Ça veut dire qu'on s'était trompé et qu'il ne faut pas les garder.
On comprend mieux ce que veut dire vivre pour l'art. On pourrait même dire là, vivre l'art.
Bien sûr, c'est vivre l'art au quotidien. Vous savez, comment avons-nous acheté ? Nous n'avons jamais acheté avec un but précis. Nous avons acheté parce que nous aimions, que nous avons eu un coup de foudre. Et seulement après, quand nous avions acheté l'objet ou le tableau, on se disait... Où va-t-on le placer ? Et parfois, on ne le trouvait pas, alors il est resté par terre très longtemps. D'ailleurs, Doucet a fait ça, puisque... La fameuse tête de Brancusi est restée par terre longtemps chez lui, et toujours, je crois d'ailleurs, jusqu'en 1929. Donc, l'art n'est pas décoratif. On n'achète pas un tableau comme une paire de rideaux. On n'achète pas un tableau parce qu'on a un trou, qu'il faut remplir le trou. Mettez ce que vous voulez, acheter une photo, n'importe quoi, une affiche. Mais on n'achète pas un tableau pour ça, on achète un tableau parce qu'on l'aime, parce qu'on a la passion de ce tableau, parce qu'un jour, au détour, moi j'appelle souvent des achats de voiture. La nuit, en rentrant chez moi, Yves a fait le plus bel achat de voiture. Tout d'un coup, nous étions tous les deux rue Bonaparte, nous descendions, J'étais là une journée, il me dit « Arrête-toi tout de suite, je viens de voir deux vases extraordinaires. » C'était les deux fameux vases de Dunant. Et moi, je ne peux pas vous dire combien de choses que j'ai vues la nuit, tout de suite. Mais le magasin, était fermé. Mais le lendemain, je suis venu. Mais je ne peux pas vous dire combien de choses. C'est ça, l'art. C'est un coup de foudre. C'est recevoir. Je n'ai pas dit d'amour, je ne parle pas de ça. C'est de
recevoir une passion.
Tout d'un coup, voilà, le destin frappe et il vous appelle.
Ce qui nous appelle, c'est l'exposition maintenant, Pierre Berger. Si vous voulez bien, nous allons nous déplacer là-bas, de l'autre côté du vestibule de cette maison, et nous allons visiter l'exposition consacrée donc à ces collections mêlées, entrecroisées, à ces correspondances entre Jacques Doucet et Yves Saint-Laurent.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
C'est une émission exceptionnelle cet après-midi sur Europe 1, puisque Franck Ferrand, vous n'êtes pas à mes côtés en studio à Paris. Pour cause, vous nous faites découvrir à nous l'exposition Jacques Doucet, Yves Saint-Laurent, Vivre pour l'art, une exposition à voir jusqu'au 14 février à la Fondation Pierre Berger, Yves Saint-Laurent. Et vous êtes justement aux côtés de Pierre Berger, président de la Fondation Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, Franck.
Oui Anissa, nous sommes à la Fondation Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, pour ce qui va être d'ailleurs la dernière exposition de la Fondation Pierre Berger.
Oui, c'est la dernière parce qu'après, nous transformons en musée, et en musée Yves Saint-Laurent comme on peut bien imaginer.
Et donc le musée va prendre un peu
de place, oui. Le double à peu près, puisqu'on englobe le premier étage en partie, et surtout, on englobe le studio d'Yves Saint-Laurent dans lequel il a travaillé toute sa vie. Et donc, il fera partie, à partir de l'ouverture du musée, de la visite.
Quand vous dites à partir de l'ouverture, ce sera vers le mois de septembre 2017, a priori ?
Ça sera c'est ce qui est prévu, à partir de 2017.
Nombreux sont nos auditeurs très impatients. Je disais en arrivant sur les lieux même, Pierre Berger, que nous n'étions pas en présence d'une reconstitution. Vous n'avez pas voulu refaire l'appartement
On a voulu, avec l'aide de Nathalie Crinière, la scénographe, de Jacques Grange, le décorateur... Et de très important, Jérôme Neut, qui en assure le commissariat général. Restons une seconde dans cette entrée. Nous avons voulu faire une évocation, par exemple ici. Nous ne sommes pas dans un escalier, il n'y a pas d'escalier. Mais nous avons voulu évoquer ce qu'était l'escalier chez Jacques Doucet. Alors vous voyez, derrière là, il y a quand même des marches, il y a un petit semblant d'escalier. Et puis, il y a Brancusi qui est là. Et puis, il y a des panneaux de Xaki. Qui était dans l'escalier.
Oui, un escalier qui était quasiment une œuvre d'art.
Ah oui, parce qu'il y avait, excusez du peu, il y avait les demoiselles d'Avignon. Excusez du peu, il y avait les demoiselles d'Avignon en plein milieu de l'escalier. Alors nous avons mis autre chose. Tout ça appartenant à Jacques Doucet, il faut le préciser, nous avons mis un très beau Picasso, un Picasso de 1912, grand, entouré de quatre
très
autres
cubiste,
Picasso,
hein, oui.
Les petits Picasso de la période bleue qui sont autour. Donc voilà, nous avons sur une évocation de l'escalier de Jacques Doucet.
Et l'on aperçoit tout de suite, dès qu'on fait quelques pas dans l'exposition, une vitrine avec de somptueuses reliures évoquant le bibliophile.
Qui a toujours été Doucet, même après qu'il a vendu sa fameuse bibliothèque, il est resté un grand bibliophile. Et surtout, là, vous voyez ce que vous voyez, ce sont des reliures.
Je me souviens du mot de Jacques Doucet qui disait, au fond, un livre relié, c'est un ami qui demeure, et un livre broché, c'est une connaissance qui passe.
Alors là, vous abordez comme ça un clin d'œil pour quand même rappeler les centres d'intérêt de Jacques Doucet. Vous avez des boîtes japonaises, très très rares. Vous avez un masque... qui est tout simplement de la Guinée, africain.
Alors nos auditeurs peuvent aller sur le site internet d'Europe 1 et voir un certain nombre de photographies et d'évocations de cette exposition.
De ce côté-là, on trouve un très beau petit cabinet de Pierre Legrain.
C'est ça.
Le même qui a fait des reliures qu'on a vues tout à l'heure.
Sous un très beau miro. Et quand on parlait de correspondance, là, on est vraiment dans une correspondance parfaite,
intime,
entre un dialogue, en quelque sorte, entre l'art et les arts décoratifs.
Mais bien sûr, mais de toute façon, les arts décoratifs, c'est quand même de l'art. Non ?
Et voilà, je pense que c'est une des leçons de cette exposition.
Alors là, il est important de remarquer le tableau que nous avons devant nous, qui est intéressant à plusieurs titres. C'est un Chirico de 1920 ou 21 qu'on dit métaphysique. Ce Chirico a été acheté par Jacques Doucet chez un très grand marchand qui était Paul Guillaume et sur les recommandations d'André Breton. Après la mort de Doucet en 29,
C'est Gréco parti, il a vécu sa vie, évidemment, comme tous les œuvres d'art. Il a fini chez un marchand très intéressant, un marchand de peinture qui s'appelait Pierre Coll. Et puis, Pierre Coll est mort, et la femme de Pierre Coll, qui est après en deuxième noce épousé quelqu'un qui s'appelait Baron, avait gardé ce tableau, et nous, nous l'avons acheté à Jean-Marie Baron.
Ça, c'est magnifique.
Voilà.
Là, donc, il y a un
tableau,
lien direct.
Un lien. Ce tableau était chez Doucet et il était rue de Babylone. Très intéressant de noter ça. Bon, vous avez ce que Yann Carlo a parlé de sagesse. Vous avez un des plus beaux Manet qu'on puisse faire, qui est au musée d'Orsay. Ça, c'est merveilleux. Le musée d'Orsay nous l'a prêté, comme il nous a prêté aussi la charmeuse de serpent qu'on va voir dans un instant. Et c'est Hélène Gray qui a fait,
ce cadre incroyable.
Le cadre incroyable, oui. Merveilleux.
Alors, vous venez de parler de la charmeuse de serpent,
on
le grand
va.
Tableau du douanier Rousseau. Nous allons le rejoindre dans un instant.
Un extrait de la valse de Maurice Ravel sur Europe 1. Et nous avons beaucoup de chance cet après-midi sur Europe 1, puisque Franck Ferrand, vous nous faites découvrir l'exposition Jacques Doucet, Yves Saint-Laurent, Vivre pour l'art, une exposition à voir jusqu'au 14 février à la Fondation Pierre Berger, Yves Saint-Laurent. Et justement, vous êtes aux côtés de Pierre Berger.
Oui Anissa, nous sommes toujours au cœur même de cette exposition consacrée à Jacques Doucet et à Yves Saint-Laurent. Et nous sommes devant deux œuvres en quelque sorte, La charmeuse de serpent du douanier Rousseau, ouais. Et le célèbre de Sofa de Coire, qui est une merveille.
Qui est une merveille. Alors ce qu'il faut dire, regardez bien ces deux pièces. Elles se trouvent réunies pour la première fois depuis 86 ans. Elles avaient été séparées en 29 et nous les avons réunies parce que le Rousseau est au musée d'Orsay et le canapé est dans un musée américain.
Et donc, elles se retrouvent après avoir passé quand même beaucoup de temps ensemble.
Je crois qu'elles sont contentes de s'être retrouvées, ces deux œuvres. En tout cas, elles sont tellement belles que j'espère pour elles.
Et quand on se retourne, Yann Carlo, on est devant la blouse rose de Modigliani.
La blouse rose de Modigliani et de l'autre côté, la merveilleuse muse endormie de Brancusi que Doucet avait posée à terre chez lui et qui retrouve exactement la même présentation. Donc il y a quelque chose à la fois d'intimiste dans cette exposition et de magistral parce que tout est somptueux et en même temps il y a une atmosphère qui est créée à laquelle tout le monde doit être sensible, qu'on soit nombreux ou peu nombreux à la voir. Et là où nous sommes quelques-uns et je pense que les gens sont subjugués de voir ces croisements de l'art et des époques.
Et d'où viennent tous ces chefs-d'œuvre, Pierre Berger ?
Des musées divers, de collections, de collectionneurs. Nous avons pu, heureusement, trouver des gens amicaux, sympathiques, généreux, et je les remercie beaucoup, qui nous les ont prêtés.
Encore une fois, on n'est pas dans une reconstitution, on est dans une évocation, et là on est en train, tranquillement, de passer de l'univers de Jacques Doucet à celui d'Yves Saint-Laurent.
On arrive dans celui d'Yves Saint-Laurent, et voyez-vous, moi qui ai vécu dans cet univers pendant des dizaines d'années, je peux vous dire que ce n'est pas une reconstitution, parce que jamais le Picasso n'a été sur cette console, jamais ça n'a été comme ça, et pourtant, c'est exactement comme si ça avait été. C'est une évocation admirable. Donc là, vous avez un grand Picasso, c'est un Picasso de 1914, cubiste, qui fait tout à fait pendant au Picasso de Jacques Doucet qu'on a vu tout à l'heure.
Avec un masque juste sous le...
Avec un masque Lega, que l'on voit dessous, avec une oie pour le parfum chinoise.
De bronze vraiment très différent et qui s'accordent merveilleusement.
Ben voilà. Ils ont intérêt à s'accorder puisqu'on n'aura pas demandé leur avis.
Chinoise et un Hercule.
On n'aura pas demandé leur avis. Alors là, à côté, vous avez évidemment des tableaux connus quand même, puisque ce sont le portrait d'Yves Saint-Laurent par Andy Warhol. Le tableau était souvent produit, souvent exposé, et ils sont là. Et vous avez aussi, dans l'art plus contemporain et sage, vous avez des miroirs qui ont été commandés par Yves Saint-Laurent, c'est une idée d'Yves lui-même.
Très spectaculaire.
À Claude Lalanne pour mettre dans ce qu'on a appelé le piano de musique, mais même s'il n'y a jamais eu une note de musique qui a été jouée là-dedans, mais ça s'est appelé le salon de musique. C'est des miroirs comme vous voyez, mais il y en avait beaucoup plus que ça, très spectaculaire.
Vous parliez tout à l'heure du cheminement des œuvres, de leur simple passage chez les collectionneurs, Pierre Berger. Une grande partie de ces œuvres avec lesquelles vous avez vécu vous-même sont parties maintenant. Vous les avez,
bien entendu,
vous leur avez
parties,
rendu leur liberté.
Vous leur avez rendu la liberté. Ce qui est dommage parfois, c'est que les collectionneurs ou les musées chez qui ils sont allés se poser n'ont pas voulu me les prêter parfois. Enfin, certains m'ont prêté. Là, c'est des collectionneurs français qui m'ont accepté, et je les remercie. Je ne cite pas leur nom parce qu'ils n'ont pas voulu. C'est un papier coupé, découpé de Matisse.
Oui.
C'est le premier papier découpé de Matisse. Nous sommes en 1937.
Il y a un Goya au milieu.
Et là, c'est un Goya qui est au musée du Louvre, parce qu'à la mort d'Yves, normalement, il voulait donner quelque chose. Donc, j'ai donné... Je ne vous ai pas dit que tout à l'heure, le Quirico est aujourd'hui au musée à Beaubourg, à Georges Pompidou, parce que j'ai aidé le musée Georges Pompidou à l'avoir. Et là, j'ai donné ce Goya, très beau Goya, au musée du Louvre. Dessous, il y a une petite sculpture de Picasso.
Et qui pourrait presque être un écho au masque dont vous parliez tout à l'heure.
C'est exactement ça. Ouais. Voilà un Mondrian. Le Mondrian nous a été prêté par le Louvre à Abu Dhabi. Mm-hmm.
Vous avez fait de Mondrian en quelque sorte la référence pour l'affiche de l'exposition et pour le livret. Pour quelle raison ?
Vous savez, parce que Mondrian est très attaché à Saint-Laurent, ou plutôt Saint-Laurent est très attaché à Mondrian, appelez ça comme vous voulez. Vous savez, en 67, il a stupéfait la couture tout entière, en s'inspirant de Mondrian, en copiant Mondrian et en faisant des robes évidemment totalement inspirées, même un peu plus inspirées que de Mondrian. Donc Mondrian, Saint-Laurent, c'est... voilà.
Vous disiez tout à l'heure, Pierre Berger, que la différence entre la démarche de Jacques Doucet et la vôtre, et celle d'Yves Saint-Laurent, c'est qu'il avait beaucoup œuvré pour l'avant-garde, alors que vous aviez été plus sage, en quelque sorte, dans vos choix. Lorsqu'on voit l'alvéole que nous avons là juste sous les yeux, avec justement ces extraordinaires vases de Jean Dunant, on est en droit de douter de ce que vous dites, parce que ça n'était pas effectivement l'avant-garde, mais c'était d'une force extraordinaire.
Je vous laisse la responsabilité de vos paroles, si vous pensez qu'en effet c'est plus d'avant-garde.
C'est pas de l'avant-garde, mais c'est très fort.
C'est
très
fort. Plus important que les artistes de notre époque. Je ne suis pas loin de penser que vous avez raison.
Voilà, eh bien nous sommes bien d'accord. Nous n'irons pas plus loin sur ce terrain glissant.
Non, pas plus loin
glissant.
Sur ce terrain glissant. En tout cas, oui, terminons si vous voulez. Bien sûr, si nous nous sommes projetés dans cette époque, si nous avons à la folie aimé cette époque, et la peinture moderne, Picasso cubiste, ou Matisse, ou autre, c'est parce que ça nous a beaucoup, beaucoup plus que le reste. Sans ça, on serait intéressé au reste. Mais ça ne veut pas dire qu'on a eu raison.
On a évoqué l'esprit, Yann Kerlo, qui règne dans ces deux collections et dans l'évocation qui en est faite ici dans cette exposition de la Fondation Berger Saint-Laurent. Au-delà de l'esprit, il y a un jeu des formes également. J'ai été assez frappé de voir dans l'exposition, dans la disposition des œuvres, etc., toutes sortes de liens, de correspondances, il y a une sorte de réseau de formes. Là, nous serions dans les courbes et dans les formes ovoïdes.
Alors on est dans les arrondis dans cette salle, mais ce qu'il faut peut-être ajouter, et ce qui va intéresser aussi les gens qui viendront voir ces deux expositions, c'est que dans des cadres de bois, il y a aussi des vues que l'on voit de l'appartement d'Yves Saint-Laurent qui permettent non seulement de repérer un certain nombre de choses qui se trouvent ici, mais de choses qui étaient dans l'appartement de Saint-Laurent et qui ne sont pas présentes. Donc c'est une sorte de panorama complet. Et là, on a par touche, dans chacune de ces salles, une sorte de rétrospective de ce qu'est l'univers de ce couturier, et cette salle qui est assez longue donne une idée quasiment parfaite, me semble-t-il, de l'éclectisme du goût de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent.
Vous savez, en matière de rhétorique, il y a une figure qu'on appelle la synecdoque, qui consiste à partir d'un objet à évoquer tout un univers. Et bien c'est exactement la démarche qui est celle de cette exposition.
C'est exactement ça.
Ouais, on est dans cette projection en quelque sorte. Lorsque vous voyez tout ça, Pierre Berger, ça vous donne envie de continuer à collectionner ?
Non, parce que je n'ai pas l'âge de collectionner. Collectionner, c'est une aventure. Ce n'est pas un acte isolé. Donc, je n'ai plus l'âge d'entreprendre une aventure que des actes isolés. Mais c'est très bien, ça me donne, non, au contraire, ça me donne une satisfaction. Je n'ai pas de nostalgie, pas la moindre. D'abord, je préfère toujours aujourd'hui à hier, et probablement demain à aujourd'hui. Donc, même si je n'aime pas toujours l'art de demain et l'art d'aujourd'hui, mais c'est une autre question, ça. Donc, je suis très heureux comme ça. Non, je suis très heureux de voir ça, parce que c'est une espèce de bilan, un constat. C'est une addition de ma vie, et un total. Alors, savoir un jour si c'est positif ou pas, chacun peut juger.
Merci infiniment de nous avoir reçus dans cette fondation de l'avenue Marceau, un lieu où souffle l'esprit, où souffle un certain esprit, vous l'aurez bien compris. Dans un instant, je vais répondre à une question d'un auditeur, une question qui vous concerne un peu, puisqu'on nous demande depuis quand existent les défilés de couture.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Pour vous aujourd'hui, Franck, une question d'Angelina qui vous l'a posée sur le site europe1.fr. Elle voudrait savoir l'origine des défilés de mode.
Ah, l'origine des défilés de couture. Eh bien, ça remonte au milieu du 19e siècle. On est à Paris, bien entendu. On est chez Charles Frederick Worth, qui est un Français d'origine britannique, qui a joué un rôle absolument essentiel, fondateur dans la naissance.
Créer la haute couture.
C'est le vrai fondateur de la haute couture. Et pour présenter un certain nombre de modèles à ses clientes, il a recours à des mannequins vivants. C'est la toute première fois que ça se fait. On est donc dans les années 1855. Worth va contribuer, vous savez, à la création de la chambre syndicale de la confection et de la couture pour dames et fillettes. C'est le nom exact du tout premier syndicat, dont l'ambition est de développer cette industrie de la mode en France. À la même époque, les couturiers font porter leur création par des comédiennes, par des personnalités plus ou moins connues du monde et du demi-monde. Les défilés ont lieu aux abords des hippodromes, notamment, qui sont des hauts lieux de la mondanité. En 1900, lorsque Paris compte déjà une vingtaine de maisons de haute couture, les présentations vont se mettre à quitter les salons des maisons de couture et les résidences privées pour des salles un peu plus grandes, pour des salles un peu plus étonnantes parfois. Celle qui va lancer tout cela, c'est une couturière anglaise, Lucy Duff Gordon. Les défilés néanmoins restent relativement confidentiels. Ils ne deviendront des spectacles que nettement plus tard, avec la musique, avec les décors, etc. Elsa Schiaparelli, par exemple, va intégrer des équilibristes, des jongleurs, des clowns à l'un de ses défilés. Les mannequins se mettent à prendre la pose. Elles se mettent à bouger leur corps d'une certaine manière, qui n'est pas d'ailleurs sans rapport avec le développement du cinéma. Mais enfin, tout ça nous entraînerait un peu loin. C'est en 1947 que Christian Dior, qui vient d'ouvrir sa propre maison, présente la fameuse collection New Look et à sa mort, 10 ans plus tard, le tout jeune Yves Saint Laurent va lui succéder et présenter sa célèbre collection Trapèze. Nous ne sommes plus dans l'histoire, Pierre Berger, nous sommes dans les souvenirs. Et voici Marion Ruggieri. Bonjour Marion.